France Culture. Affaires culturelles, Arnaud Laporte.
Ce soir, je reçois Virginie Grimaldi. Vers 19h45, le son du jour, nous écouterons ce soir Kamasi Washington et son morceau Get Lit. Vers 19h50, le grand tour de Marie Sorbier qui sera ce soir à la Cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts dans l'Aisne pour la présentation du 671e volume de la Pléiade consacré au poète de cette collection. Le tout est réalisé par Alexandre Fougeron avec Marie-Claire Oumabadi à la prise de son. Bonsoir Virginie Grimaldi.
Bonsoir.
Votre nouveau roman, Plus grand que le ciel, a paru il y a quelques jours à peine chez Flammarion. C'est votre 10e roman. On va bien sûr parler de votre parcours, de ce qui vous a amené vers l'écriture, du très grand succès qui est le vôtre depuis la sortie du premier roman, Le premier jour du reste de ma vie, c'était en 2015. Alors on va parler de vos méthodes de travail, de la façon dont vous écrivez, vous concevez vos romans. Après ce premier, les deux suivants, tu comprendras quand tu seras plus grande et le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie, ont déjà eu plus de 2 millions de lecteurs chacun et en 9 livres. On en est aux alentours de 7 millions d'exemplaires. J'en donne ces chiffres qui donnent quand même un peu le vertige. Dire aussi qu'en 2022, votre roman « Il est grand temps de rallumer les étoiles » a été élu livre favori des Français. C'est un vote pour cette émission de France Télévisions. Donc là, c'est vraiment le grand lectorat qui vous a récompensé. Et puis dire aussi qu'Une belle vie, 9e roman, s'était vendu à 30 000 exemplaires en 4 jours au moment de sa sortie. Alors, je ne sais pas quels sont les chiffres pour l'instant et je m'arrête là pour les chiffres, mais parce que c'est de votre art que nous allons parler ce soir. Je disais qu'il donne le vertige, mais justement, est-ce que pour vous, avec l'expérience et le très grand succès qui est le vôtre, Virginie Grimaldi, est-ce que vous vivez les sorties de livres plus sereinement ou est-ce que c'est toujours un moment délicat ?
Non, paradoxalement, c'est même de plus en plus stressant parce que plus il y a de personnes qui attendent la sortie, plus j'ai peur de décevoir, j'ai peur de ne pas être à la hauteur des attentes. Grâce ou à cause des réseaux sociaux, maintenant, on peut palper l'impatience des lecteurs. Et c'est vrai que j'ai les jours qui précèdent une parution, je suis très très anxieuse même, on peut dire. Ce qui n'est pas le cas avant, pendant l'écriture, je pense pas à tout ça. Mais une fois qu'on approche de la parution, c'est toujours ce vertige de me demander est-ce que c'est pas celui qui va décevoir. Je suis toujours persuadée que ce sera le cas. Et à chaque fois, c'est pas encore le cas.
Oui, ça a été le cas depuis le début. Hein, ça, on va le voir. Vous avez toujours pensé que le suivant, ça ne marcherait plus. Bon.
Parce que c'est comme ça que ça fonctionne habituellement. Enfin, je vois et à chaque fois, je suis épatée de voir que les lecteurs sont aussi fidèles. Ouais. Ils sont très fidèles, en fait.
Ils ont peut-être des raisons.
Ouais.
Hein, vous êtes responsable, Virginie Grimaldi. Hein. C'est de votre faute si vous avez autant de lecteurs, a priori.
Je vais avoir ma part.
Alors, on va un peu rembobiner l'histoire pour dire que vous êtes né à Bordeaux. On entend cette jolie petite pointe d'accent où vous vivez toujours. Coin de France auquel vous êtes très attaché. Alors d'origine italienne et pieds noirs, milieu ouvrier, modeste. La culture n'était pas forcément à portée de main, avez-vous dit, mais enfance heureuse, pleine d'amour, marquée certes par le divorce de vos parents quand vous avez 11 ans, alors ce qui entraîne chez vous quand même un sentiment d'insécurité, une forme de différence par rapport aux autres, une ultra-sensibilité, qui fera aussi de vous l'autrice que vous êtes devenue, mais ça va être le terreau d'une certaine façon de votre écriture. Mais justement, il paraît que dès l'enfance, avant même cet épisode douloureux, vous avez toujours dit que plus tard vous seriez écrivain, que vous écririez des livres. Ça, c'est quand même un mystère que j'essaye souvent de percer avec mes invités, celui de la vocation. Vous concernant, Virginie Grimaldi, vous pensez que ça vient d'où, cette envie d'écrire ?
En effet, c'est très ancien et je me souviens maintenant, mais C'est un souvenir qui revient de des petites fiches qu'on écrit au collège avec quel est le métier que vous souhaitez faire plus tard. J'écrivais écrivain. Je crois que ça vient vraiment du goût de la lecture, du pouvoir des mots dans lesquels je me réfugiais dès que j'ai su lire. Il y a eu aussi les mots de ma mère qu'elle me lisait tous les soirs. J'avais des livres, c'était vraiment... j'avais une bibliothèque très fournie et je me souviens de tous les livres qu'elle me lisait le soir. Je ne me couchais pas sans mon histoire. Et ma grand-mère, les mots de ma grand-mère qui écrivait, qui écrit toujours des poèmes. Elle a des gros carnets assez épais, remplis de poèmes qui concernent tout des questions d'actualité, des questions plus intimes. Elle écrit des poèmes sur chacun d'entre nous. J'ai mon poème qui a été imprimé, encadré, le poème qui s'appelle Virginie. Et je me plongeais dedans, je me revois vraiment petite fille à la table du salon, plongée dans ces carnets de poèmes. Et ressentir énormément d'émotions en les lisant. Et me sentir proche d'elle. Donc c'était les mots, finalement, c'était comme un lien entre nous. Et c'est comme ça que je vois les mots encore aujourd'hui, comme un lien entre les gens.
Ouais, mais alors, ce qui est quand même curieux, parce que vous dites que la culture avait peu de place dans l'environnement familial, mais quand même, il y a donc cette grand-mère qui écrit, un grand-père qui a remporté un concours de nouvelles.
Oui, il avait remporté un concours de nouvelles, il peignait aussi. Mais
c'est dans l'ADN quand même familial.
C'est dans l'ADN, mais si vous voulez, quand je parle, on n'allait pas dans des musées, on n'allait pas à des concerts, on n'allait pas au théâtre. Les livres, finalement, c'est un bien assez cher, donc j'en avais pas mal étant petite. Mais après, quand j'ai eu cette boulimie de lecture, il a fallu se freiner et lire plusieurs fois les mêmes livres. Ou alors je piquais dans la bibliothèque de ma mère. Voilà, c'est dans ce sens-là que je dis qu'on n'est pas d'un milieu culturel. Mais en effet, il y a une fibre artistique, et notamment littéraire, dans ma famille qui est très présente. J'ai une tante aussi qui écrivait beaucoup. On écrit.
Ouais, t'as envie de raconter des histoires aussi, mais qui passent par l'écrit. Alors, très jeune, vous gagnez un concours de nouvelles. Vous écrivez un premier roman à l'adolescence. Vous l'avez gardé ?
Non. Malheureusement, je regrette de ne pas l'avoir encore. Oui.
Pour votre Pléiade.
C'était oui.
Œuvre de jeunesse.
Je pense que personne n'aimerait le lire, mais moi, j'aurais aimé le retrouver, oui.
Ah bah oui.
Puis il y avait aussi, oui, il y avait une nouvelle que j'avais écrite. Pareil, j'aurais aimé la retrouver. Je regrette de ne pas avoir conservé tout ça.
C'est dommage. Mais ensuite...
J'y croyais pas assez, je crois.
Ben oui, vous y croyez tellement pas. Vous passez un bac G, vous faites un BTS d'assistante commerciale en alternance, vous commencez à travailler dans la banque. Mais l'envie d'écrire, quand même, est toujours là. Virginie Grimaldi, alors la légende raconte qu'un soir de l'an 2000, devant votre télé, vous découvrez un certain Marc Lévy qui vient de publier son tout premier roman. Et si c'était vrai. Donc là... ça vous travaille, nouveau manuscrit que vous envoyez à des éditeurs, des refus. Mais qu'à cela ne tienne, vous ouvrez alors un profil MySpace. Bon, les plus jeunes, allez vous renseigner.
C'est le premier réseau social.
Et puis après, vous ouvrez un blog. Et là, vous commencez à écrire. C'est le Femme, Sweet Femme. C'est Ginny, cette fois.
C'est vrai.
C'est la fin de Virginie, qui poste quotidiennement des petits textes. Alors, c'est vraiment une pratique... il y a déjà beaucoup d'humour, c'est la vie quotidienne, évidemment teintée d'humour et de fiction. Vous ne l'avez fermé d'ailleurs qu'en 2018, je crois, ce blog, mais les retours de vos lectrices et lecteurs, qui déjà étaient nombreux, quelle importance cela a eu dans la construction de votre style, de votre imaginaire ?
Ça a été fondateur, fondamental, c'est-à-dire que j'avais donc écrit un vrai roman que j'avais envoyé à des maisons d'édition avant d'ouvrir ce blog. Si je compare mon style avant et après, il n'a rien à voir.
Celui-là, vous l'avez gardé, le premier.
Oui, je l'ai.
Là,
mais
vous voyez la différence.
Je ne le ferai lire à personne. Mais j'ai les yeux qui saignent quand j'essaie de le relire. Écrire tous les jours et être confrontée au retour, mais je sais même pas si c'est le retour. Les retours des lecteurs m'ont encouragée à oser. me lancer et persévérer. Mais écrire tous les jours, cet exercice-là, il a affûté mon style, ma plume, mon humour aussi et le rythme. C'est là que j'ai découvert que dans l'écriture, il y avait un rythme très important. J'écris vraiment, j'entends comme une musique. Quand j'écris les phrases, il faut qu'elles aient un rythme défini. Enfin, je les entends. Et quand après, je me relis... Parfois, j'entends comme une fausse note, alors je réécris. Mais et je crois que c'est vraiment cet exercice-là d'écrire tous les jours.
De la discipline.
De la discipline et...
C'est un peu comme les leçons de piano, le conservatoire. On refait des gammes, et
exactement.
Puis on commence à mieux interpréter.
Oui. Oui, c'est ça. Et puis ça nous permet de découvrir notre propre langue et de pas emprunter celle des autres et tout, parce que c'est l'écueil dans lequel on peut tomber. Je crois qu'au début, d'ailleurs, mon premier roman, il empruntait beaucoup trop de choses à d'autres auteurs. Et voilà, ça m'a permis vraiment de m'identifier. Et c'est quelque chose qui me fait... plaisir aujourd'hui, c'est quand on me dit j'ouvre le livre et je sais tout de suite que c'est vous et c'est grâce au blog que j'ai obtenu cette identité-là, je crois.
Et puis donc en 2014, une de vos nouvelles, La peinture sur la bouche, remporte le deuxième prix d'écrire au féminin. L'année suivante, il y a une amie qui vous envoie un lien vers un appel à manuscrit sur un thème imposé. Vous y répondrez et ça va donner naissance à ce premier roman, Le premier jour du reste de ma vie, qui paraîtra chez City Edition en 2015. Alors ce qui est paradoxal, c'est que ce premier roman publié, c'est pas forcément celui que vous préférez. Vous dites que vous l'avez écrit un peu trop vite, pour autant... Oui. Le succès est au rendez-vous, tellement que beaucoup de maisons d'édition souhaitent à ce moment-là s'attacher vos services. Ce sera Fayard qui remportera le gros lot, si je puis dire. Mais ce premier succès, ce tourbillon, ces sollicitations, Virginie Grimaldi, comment est-ce que vous les avez vécues ?
Alors, c'était en deux étapes. C'est-à-dire que la première étape, c'est d'être publiée. Ça, c'était mon rêve de petite fille. Et je croyais avoir atteint, voilà, mon objectif et concrétisé cet idéal. Mais il y a eu ensuite tout le reste derrière, c'est-à-dire les lecteurs qui étaient assez nombreux. Alors, il y avait cette base du blog qui attendait. Et puis ensuite, ça a fait, avec le bouche à oreille, un peu tache d'huile et ça a commencé comme ça. Mais encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui me dépasse complètement. C'est un tourbillon duquel je me tiens assez loin finalement, parce que c'est un peu effrayant. Alors c'est très très positif et je suis extrêmement heureuse de tout ce que je vis, de toute cette aventure. Ça a apporté énormément de positif dans ma vie. Ça m'a apporté une certaine confiance en moi que je n'avais pas du tout. Je me sens à ma place. En revanche, tout ce qui est succès, c'est quelque chose que je regarde avec beaucoup de méfiance. L'image que les gens peuvent avoir de moi est tellement loin que l'image que j'ai moi de moi. Je crois que j'existe dans un entre-deux en fait. Il y a un juste milieu. Et puis oui, toutes ces sollicitations que je ne connaissais absolument pas, parce que comme vous le disiez, je viens d'un milieu assez modeste et tout a changé. Et donc je me tiens loin de tout ça et donc voilà, je viens quelquefois faire la promotion du nouveau livre et le reste du temps, je suis comme retirée de ce monde-là. Et finalement, ça me permet de pas tellement m'en rendre compte. Donc c'est assez vertigineux quand je viens et qu'on me dit tous ces chiffres et voilà, de passer à la radio et de devoir parler de moi comme ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout naturel. Mais que je fais avec beaucoup de bonheur. Mais je suis aussi très heureuse de me tenir loin de tout ça, parce que je sais que c'est très éphémère et surtout que c'est pas le plus important. En revanche, voilà, ça m'a apporté énormément de positif. C'est de me sentir à la juste place.
Alors, le succès d'un premier livre, ça peut être évidemment un sacré poids. Avant de savoir comment vous l'avez vécu, on va écouter cet extrait de l'entretien que j'avais eu avec Marc Lévy dans cette émission en mai 2022.
Moi, je me suis mis à écrire parce que je suis très pudique et que écrire, c'est coucher sur le papier ce qu'on n'arrive pas à dire à voix haute. Et c'est ce qui m'a amené vers l'écriture, où tout à coup s'ouvrent des chemins de liberté formidables. Mais bon, dans ce premier roman, j'avais quand même essayé de partager une chose avec mon fils. À l'époque, l'interdit prévalait sur l'autorisé. sur l'autorisation. Et quand vous aviez une idée, 95% des gens vous disaient « c'est pas possible ». À l'époque, les start-up n'existaient pas, la révolution technologique ne s'était pas faite. Et moi, toute mon enfance avait été nourrie et peuplée par la tribu des « c'est pas possible ». Et dans ce roman, j'essayais de dire ce qui est devenu aujourd'hui assez galvaudé, mais je voulais vraiment dire à mon fils, si t'as un rêve, vas-y. Bon, et puis se réalise un rêve que j'avais pas osé faire. Donc là, il y avait un dilemme paternel, c'est que qu'est-ce que j'allais faire de ce rêve? Si j'essayais pas d'en écrire un deuxième, mon fils me dirait, mais toi, t'en as fait quoi de ton rêve? Alors j'étais convaincu que ça marcherait pas. Et je n'avais aucune, enfin, et d'ailleurs, mais tellement convaincu que ça marcherait pas que je ne pensais même pas encore une fois, vous voyez, à la publication de ce deuxième roman. Mais je me suis mis tout de suite à l'écrire et avec cette idée de continuer à lui raconter une histoire comme je lui racontais une histoire tous les soirs, sans me soucier du reste.
Alors, c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure, hein, Virginie Grimaldi. Comme Marc Lévy, vous pensez que le succès initial était peut-être, reposé sur une forme de malentendu, oui. Que forcément le suivant ne marcherait pas. Vous l'avez vécu comment, vous, l'écriture du deuxième?
D'ailleurs, c'est drôle parce que quand j'ai annoncé au lecteur du blog que j'allais publier mon premier roman, je me suis presque excusée. Vraiment, je me souviens de l'article que j'avais écrit dans lequel je disais « mais vous n'êtes absolument pas obligé de le lire, peut-être qu'il ne vous plaira pas ». Enfin, vraiment, je m'excusais de potentiellement les décevoir parce que j'étais persuadée, et comme Marc Lévy, j'étais persuadée que mon rêve était réalisé, que ça n'irait pas plus loin. Et l'écriture du deuxième, elle s'est faite assez naturellement. De la même manière que tous les autres, en fait. J'ai, de toute manière, que ce soit publié ou pas, j'écris des histoires dans ma tête depuis toujours. J'ai un monde imaginaire très dense. On est plusieurs dans ma tête. Et donc, les idées sont très présentes. Elles vivent avec moi. Et donc, très rapidement. Et en plus, d'autant plus facilement que le premier roman m'avait été dicté par ce concours auquel je participais, et donc le thème était imposé. Et le thème dont j'avais vraiment envie de parler, l'histoire que je voulais vraiment raconter, elle était affleurante et je n'avais qu'à l'écrire. Donc l'écriture du deuxième a été assez simple. Peut-être le plus facile, finalement.
Alors de fait, vous enchaînez depuis bientôt 10 ans les succès. Alors même si on sait qu'il n'y a pas de recette du succès, on va essayer de savoir quand même, comme avec tous les artistes qu'on reçoit, de ce qui nourrit votre travail. Alors, pour autant, avant d'y venir, je voudrais évoquer un écrivain que vous aimez beaucoup, qui est Romain Gary. Et avant d'en parler, une archive à vous faire écouter. On est en 75. Émile Ajar vient de refuser le prix Goncourt qui lui a été décerné pour La Vie devant soi. Et Émile Ajar dévoile sa véritable identité, Paul Pavlovitch. Alors du coup, au journal de France Inter, on interview l'oncle de Paul Pavlovitch, Romain Gary. Bon, on saura plus tard que l'oncle de l'auteur était l'auteur véritable. Écoutez ce que disait à ce moment-là Romain Gary.
Mettez-vous à la place d'un garçon jeune qui a un homme proche de sa famille, qui a atteint une certaine notoriété littéraire dans des conditions publicitaire, dans des conditions de produit, un produit Romain Gary qui ne lui plaît pas. Tout ce qui se passe aujourd'hui prouve que lorsqu'on veut préserver sa vie privée, on a tort de publier. À partir d'un certain degré de notoriété, les types deviennent prisonniers de leur image.
Que croyez-vous qu'il va devenir des ménageurs?
Tout ce que je voudrais, c'est qu'il continue à écrire.
Il a trouvé la solution, se cacher derrière un autre, Romain Gary. C'est une tentation qui peut naître pour plusieurs raisons. Parmi celles-ci, il y a ce désir d'anonymat. Le succès, Valérie Grimaldi, c'est quelque chose, vous l'avez évoqué déjà tout à l'heure, qui peut peser. Et le fait de rester vivre à Bordeaux, par exemple, est votre façon à vous de vous tenir à distance.
Oui, et j'y ai mes racines, j'ai toute ma famille sur place et j'ai besoin de rester proche de mes racines. Et oui, c'est une manière sans doute de rester à distance de ce succès-là qui, alors, pour une fois, je ne suis pas d'accord avec Romain Gary. Ah. En tout cas, pour ma part, je ne me sens pas enfermée dans mon image.
Bon, lui, il en avait une très forte.
Oui, exactement.
Il avait tout fait pour.
Exactement.
Quand même.
Et Et je trouve qu'il a très bien fait de prendre un pseudo pour nous offrir ses chefs-d'œuvre. Mais pour ma part, je me sens pas enfermée et je ne me sens pas obligée d'écrire toujours le même livre. Mmh. En tout cas, c'est quelque chose qui m'effraierait justement de devoir répondre à une attente.
La vie devant soi, c'est un livre que vous aimez particulièrement.
Oui, je crois que c'est le livre qui m'a provoqué le plus d'émotions. Sur un sujet tragique, il y a beaucoup d'humour, il y a une histoire d'amour magnifique et c'est un livre et c'est ce que je cherche dans les livres. J'aime le style est très très important pour moi. Et je crois que j'ai surligné quasiment toutes les phrases de ce livre parce qu'elles sont toutes magiques. Vraiment, pour moi c'est un chef-d'œuvre ce roman. Mais globalement tous les livres de Romain Gary. Pardon.
Oui, non, il est vraiment en haut de votre panthéon, Romain Gary. Alors, pour vraiment entrer dans votre monde, dans votre écriture, justement, j'ai pour vous proposer d'écouter encore quelques voix d'autrices, d'auteurs pour vous permettre de vous raconter en réagissant aussi à leurs propos. On va d'abord écouter Leïla Slimani, lors de sa masterclass France Culture animée par Louise Touré en 2021.
C'est pour ça que je suis devenue écrivain, parce que la réalité ne me suffisait pas en tant qu'individu à vivre simplement. La vie telle qu'elle est ne me suffisait pas. Et puis, j'avais l'impression aussi que dans la façon dont on la percevait, cette réalité, et surtout dont on perçoit les autres, c'était toujours insuffisant, qu'on était toujours injuste vis-à-vis du réel ou vis-à-vis des autres. Moi, j'avais l'impression de ressentir des choses extraordinaire, d'être traversée par des émotions absolument immenses, et je voyais autour de moi forme d'indifférence des autres, de mollesse, de tiédeur, et j'avais envie tout le temps de prendre les gens au collet, de les secouer, de leur dire mais tu te rends pas compte comme tout ça est extraordinaire, ou à quel point je suis triste. Je suis pas juste triste, je suis atrocement triste. Et donc la littérature, c'était le seul endroit où je pouvais trouver une réalité qui était à la hauteur des sentiments que j'éprouvais. Moi, je crois que je suis vraiment une romancière de l'émotion, c'est-à-dire que j'écris à partir des émotions, ce qui m'empêche pas, en même temps, quand je commence un roman, d'être toujours d'abord guidée par une idée. Au début, j'ai pas vraiment une histoire ou ni même un personnage, j'ai une idée. Bah, Chanson douce, mon idée, c'était de raconter la relation entre une femme et une nounou. Dans le jardin de l'orgue, c'était la question de l'addiction sexuelle, et pour, par exemple, le pays des autres, c'était le statut d'étranger, d'une manière ou d'une autre. Et après, je trouve les personnages. Mais ensuite, dans mon écriture, tout est raconté, tous les événements, tous les paysages, toutes les situations sont racontées à travers une émotion.
Alors j'ai l'impression, Virginie Grimaldi, que vous auriez pu dire à peu près, mot pour mot, tout ce que vient de dire ici Leïla Slimani. Vous aussi, vous êtes une romancière de l'émotion, cette hypersensibilité que j'évoquais tout à l'heure. On la retrouve dans vos romans, dans votre écriture. Elle vous permet de vous glisser justement avec beaucoup de justesse dans la peau de vos personnages. Mais pour reprendre une chose que disait aussi Leïla Slimani, l'idée de départ pour vous d'un nouveau livre, est-ce que c'est aussi une idée? Est-ce que c'est une situation? Est-ce que c'est un personnage?
Oui, ça va être une idée, parfois juste une émotion, mais c'est souvent une idée. Et souvent, c'est la même. C'est le temps qui passe.
Je me rends compte que c'est une obsession chez vous.
Oui, c'est mon sujet qui prend diverses formes. Mais je crois que c'est mon sujet principal parce que c'est le sujet qui m'obsède au quotidien. Vraiment, tous les matins, je me réveille en me disant ça passe vite, il faut profiter, ça passe vite. Surtout depuis que je suis mère, je ressens ça profondément et assez douloureusement. Donc peut-être que j'écris pour figer le temps aussi, pour marquer ces moments-là, pour ne pas oublier l'intensité justement des émotions ressenties à certains moments. Et ça part toujours d'une idée qui m'est dictée par l'intime, par ce que je vis, par ce dont je suis témoin dans mon cercle proche. Et donc tous mes romans ont une grande part de personnel. Et parfois, ça part juste d'une émotion d'ailleurs, d'une peur. Ça peut être une peur que j'ai envie d'exorciser. Et ensuite viennent les personnages, vient l'intrigue et l'angle que j'ai envie de prendre. Donc après tout ça, ça se construit naturellement. Mais l'idée de départ, c'est toujours très vague. C'est vraiment un point de vue, on va dire.
Alors, un point de vue qui est souvent celui d'une jeune femme d'aujourd'hui, avec des questions qui sont celles qui nous préoccupent tous, celles du couple, celles de la famille, celles de la maternité, paternité, des changements de vie, des couples qui s'étiolent, mais aussi, alors, des maladies, hein, de toutes sortes, des maltraitances, la vieillesse, hein, ce temps qui passe. Bien sûr, le deuil. On pourrait dire que c'est la vie même qui est votre sujet, Virginie Grimaldi, et toutes les failles dans lesquelles on peut être englouti. Et vos personnages, vous semblez très bien les connaître. Alors, comment est-ce qu'ils naissent dans votre esprit ? Il faudrait peut-être prendre les derniers en date. Peut-être pas ceux-là, non, parce qu'ils sont un peu particuliers. C'est trop facile.
La réponse,
parce que là, le mélange, il est un peu évident, mais je sais pas de quel livre, sur quel livre on pourrait partir. Comment ça naît dans votre esprit ? Est-ce que vous voyez la personne ? Est-ce que vous la décrivez ? Est-ce que vous savez ce qu'elle porte ?
Oui.
Quel est son parfum ?
Alors, c'est pas aussi précis, mais je la vois. La vois et je l'entends surtout. Mmh. Je l'entends me raconter son histoire avec son phrasé. Et c'est très étrange, j'ai l'impression de parler à des morts. Mais, mais c'est quelque chose comme ça qui me tombe dessus. Souvent, on me demande comment vous vient l'inspiration. Et c'est vraiment ça, ça nous tombe dessus. Mmh. Et ça ne me lâche pas tant que je le raconte pas. Et les personnages, j'ai pas besoin de leur trouver. D'ailleurs, dans le dernier, le prénom, je n'arrivais pas à me souvenir du prénom, du premier prénom que j'avais donné à l'héroïne. Et il collait pas, il ne lui allait pas. Et puis au bout d'un moment, j'ai changé. C'était une évidence, c'était Elsa. Donc c'est vraiment, ils arrivent avec leur bagage, avec leur apparence physique que je ne décris pas. D'ailleurs, je laisse au lecteur.
Mais vous l'avez en tête ou
moi,
pas ?
Moi, je l'ai en tête. Oui, oui, oui. Moi, ils existent. Je sais exactement à quoi ils ressemblent. Et puis surtout, je connais leur caractère, donc à la relecture, parfois, je me dis, non, il n'aurait pas dit ça, donc je vais le modifier. Et c'est vrai que j'ai pas une bio très détaillée de ce qu'ils ont traversé, mais ils existent en tant que tels, et ils mangent à ma table le soir, enfin, vraiment, ils vivent avec moi pendant les mois d'écriture. Et ce sont des personnages auxquels je repense après, une fois que j'ai terminé l'écriture. Je me demande parfois ce qu'ils sont devenus.
Comment ils ont.
Il m'arrive d'ailleurs d'en reparler, d'en recroiser dans certains romans et de prendre de leurs nouvelles.
Oui, comment ils ont traversé les épreuves qu'ils vivent dans vos livres. Parce que justement, c'est aussi l'idée que. Et c'est aussi une des raisons, je pense, du succès de vos livres, Virginie Grimaldi, c'est l'idée que la littérature, ça nous aide aussi à vivre, à nous comprendre les uns les autres. Sur ce sujet, un extrait de Radioscopie, Jacques Chancel qui reçoit en juin 1979, Marguerite Yourcenar.
Le lecteur idéal est un homme ou une femme qui relit, qui s'intéresse assez à un livre pour le relire avec attention, et cherchant chaque fois des points de vue différents ou des détails qui lui avaient échappé. Et ensuite, c'est le lecteur qui lit, non pas seulement pour s'identifier, selon cet horrible jargon de la psychologie moderne, mais au contraire pour s'élargir, pour entrer dans des vies différentes, pour entrer dans des domaines différents, pour en savoir, en comprendre, peut-être même en aimer un peu plus. Il y a une devise alchimique que j'ai citée à propos, bien entendu, de Zénon. « Ego un homme est multi in me ». Je suis un et tout est en moi. Eh bien, je pense la même chose. Je pense que nous sommes tout, que nous sommes tous, mais que le temps nous manque, bien entendu, pour développer toutes ces possibilités et les occasions aussi. Et qu'un des mérites de la littérature, quand elle y parvient, c'est de tâcher de nous faire entrer dans ces êtres différents, de nous faire comprendre qu'ils sont nous-mêmes, que nous aurions pu vivre de cette manière-là, que c'était là une de nos possibilités. J'ai essayé de montrer ça, j'ai essayé d'étendre cette sympathie à tous mes personnages. Et d'après ce que vous voulez bien me dire, et qui naturellement me ravit, évidemment j'ai quelquefois réussi.
Marguerite Yourcenar, pour prolonger ce propos, Virginie Grimaldi, écrire c'est aussi vivre d'autres vies que la sienne, pour paraphraser le titre d'un livre d'Emmanuel Carrère, mais c'est aussi ce que vous éprouvez en écrivant vos romans. Est-ce que vous faites éprouver à vos lecteurs, on s'interroge sur nos propres vies grâce au récit que vous nous proposez?
C'est quelque chose qui revient souvent de la part des lecteurs, c'est qu'ils se retrouvent... Alors, il y a deux choses, et c'est intéressant ce que disait Marguerite Yourcenar, parce qu'il y a en effet ceux qui cherchent à s'identifier et qui ont l'impression de se retrouver. Il y en a qui me disent, mais vous me suivez dans la rue, vous avez fait mes poubelles, c'est pas possible que vous parliez de moi de cette manière. Et il y a d'autres personnes qui... viennent se confronter à des peut-être des mondes qu'ils ne connaissent pas, des vies qu'ils ne connaissent pas. Moi, je lis aussi pour ces raisons-là, aussi pour me confronter à d'autres vies que la mienne. Ouais. C'est exactement ça. Et pour ouvrir mon horizon.
Et comprendre les autres.
Et comprendre les autres, exactement. Mmh. Parce qu'on n'est pas forcé parfois. Je lis des avis qui disent j'ai pas réussi à m'attacher au personnage. Et je sais pas si on a besoin de s'attacher au personnage. Je sais pas si dans la vie, tout le monde est attachant. Si on s'attache à tout le monde...
Ça se saurait.
Mais exactement. Ça serait bien.
Ouais, bon, ce serait peut-être un peu...
Un peu pénible.
Un peu triste, un peu tiède, c'est un vrai, peu fade.
C'est vrai, un peu de relief. mais je crois que... En tout cas, j'essaie de faire en sorte que mes personnages aient du relief, aient des défauts, qu'on ne soit pas toujours d'accord avec eux. Et j'essaie aussi modestement de faire entrer des valeurs dans mes textes, des valeurs qui me sont chères, pour ouvrir les horizons des lecteurs aussi. C'est important pour moi. Même si je ne me ressens pas du tout la vocation de passer des messages. Mais je crois que la littérature peut ça aussi.
Bah oui, quand même. Ouais. Il y a des leçons de vie à tirer comme... dans ce nouveau livre Plus grand que le ciel. Et pour y arriver, on passe par votre choix musical pour cette émission qui s'est portée sur la chanson Grace de Jeff Buckley. Comme le temps file, on l'écoutera peut-être pas tout à fait en entier, mais pour une fois, c'est vrai qu'elle est longue. Mais alors pourquoi ce choix, Virginie Grimaldi?
Parce que Jeff Buckley est un de mes chanteurs favoris, qu'il est mort après la parution de son premier album. J'étais adolescente et ça m'a marquée. J'avais l'album, je l'ai saigné. Cette chanson particulièrement, je trouve qu'elle a un rythme qui m'emporte. Et dans ce livre-là, on en parle puisque les deux personnages principaux se retrouvent sur ce chanteur-là pas grand monde ne connaît et il se trouve ce point commun-là, de le connaître et de l'aimer.
Ouais, il fallait bien qu'il commence à avoir des points communs parce que ça commence plutôt mal avec eux. Hein. Jeff Buckley qui nous accompagne pour parler de ce nouveau livre, Plus grand que le ciel, Virginie Grimaldi. Alors, livre dans lequel la mort est présente, douloureusement, évidemment. C'est le premier publié, sans doute écrit, je pense, après le décès de votre père. La suite le dira, mais il me semble que ce livre marque quand même une forme de bascule dans votre parcours, parce que bon, l'humour est quand même toujours très présent. Mais il y a une gravité, bon, qui pointait déjà, mais qui... Alors, c'est des lectures très subjectives et ce n'est que la mienne. Je sens que la gravité a une place plus grande. Est-ce que c'est votre sentiment aussi ?
En l'écrivant, c'est ce que j'ai éprouvé, en tout cas. J'avais eu cette gravité, ce chagrin même, et j'ai l'impression d'être allée puiser peut-être plus profondément en moi et de... J'allais dire de moins m'être interdit cette gravité-là, mais c'est pas vrai, je me la suis jamais interdite. C'est-à-dire que là, je la ressentais tellement fort que sans doute elle perd le plus dans les pages. Je sais pas, j'ai l'impression d'évoluer de toute manière. C'est même pas à chaque livre, c'est à chaque année. Chaque année, il y a la vie avec ses épreuves, avec ses joies. J'ai l'impression de devenir une autre personne. Mon premier roman, comme on disait, je l'écrirai plus du tout pareil. Je perds un petit peu de légèreté au fil des années. Et donc, forcément, ça se retrouve dans mes livres. Je suis heureuse quand même de pas perdre totalement mon humour. Je crois que je suis incapable d'écrire un livre dans lequel je ne me fais pas rire en écrivant et dans lequel je ne fais pas rire les lecteurs, parce que ça fait vraiment partie de mon caractère. Mais en effet, je crois que celui-là, est-ce qu'il marque un tournant ou est-ce que ce sera l'unique, je ne sais pas.
C'est vrai. Mais en tout cas, il a une sensibilité différente.
Il aborde un sujet. Beaucoup plus sombre et il l'aborde. Enfin, j'étais en train de le vivre en même temps que je l'écrivais, donc il y a moins de distance, je pense.
Vous disiez que dans chacun de vos romans, il y a beaucoup de vous, évidemment, mais là, on a l'impression que si on additionne Elsa et Vincent, les deux principaux, les deux héros de ce livre, de tous les personnages qu'on a pu rencontrer dans vos livres différents, on a l'impression que leur addition, c'est quand même quelque chose qui ressemble. Sans doute beaucoup à Virginie Grimaldi.
Ils ont mes contours, oui. Et le reste. Oui, oui, effectivement. Vincent est un écrivain qui a du mal à assumer, on peut dire, son succès. Et qui a du mal à... Alors, ça dépend, parce que sur cette partie-là, oui, il va me ressembler. Sur le reste, non. Et Elsa, sur plein de points, elle est très différente de moi. Mais en effet, elle vient de perdre son papa. Et elle se rend compte que, contrairement à ce qu'elle a toujours cru, le bonheur n'est pas obligatoire tous les jours et qu'on a le droit d'être triste et de prendre le temps de l'être. Voilà, donc en ça, les deux me ressemblent beaucoup et ils me ressemblent évidemment au travers de plein d'anecdotes que je distille. Mais le jeu, c'est de savoir lesquelles sont vraies, lesquelles ne le sont pas. Pour moi, écrire aussi, c'est ça, c'est mettre de la distance entre la réalité et moi. Et je me cache. Marc Lévy, tout à l'heure, disait qu'il était très pudique et qu'il écrivait par pudeur. Moi, je me cache beaucoup derrière la fiction. C'est beaucoup plus confortable pour moi de parler de moi dans des romans.
Alors, oui, roman, effectivement, le mot est important. Parce que c'est bien de cela qu'il s'agit, mais justement, il y a cette situation de départ, toujours, cette idée, cette sensation, mais vos personnages, est-ce qu'il y a un moment donné où ils prennent le pouvoir sur le récit ?
Ah oui, complètement, et là, d'autant plus rapidement que ça a été nécessaire qu'ils prennent le pouvoir. Ce livre-là, je l'ai commencé, c'était pas un livre, j'écrivais à mon père, j'avais besoin de lui écrire parce qu'il me manquait, et j'ai commencé à écrire les souvenirs que j'avais avec lui, et je crois que parce que c'était trop douloureux, les personnages se sont invités et on dit oh, coucou, on va venir apporter un petit peu de légèreté, et c'est devenu un roman, ça m'a permis de mettre de la distance. Alors évidemment, tout ce que j'ai écrit ensuite, je ne l'ai pas mis dans le livre, mais en tout cas, tous les passages où Elsa parle de son père m'ont été inspirés par ce que j'ai vécu. Mais ensuite, toute l'intrigue qui concerne leur rencontre, leur relation, tout ça, c'est issu de mon imagination et c'est ma carapace, en fait. C'est ce qui me protège.
Petit point pratique là encore, est-ce que vous aimez aller au bout d'un premier jet du roman ou est-ce que vous voulez avancer que chapitre après chapitre, que chacun soit parfait pour passer au suivant?
Bah c'est un premier jet, mais j'écris dans l'ordre. Il faut que, par exemple, si je change quelque chose, si je me dis pas j'y reviendrai plus tard, je retourne tout de suite modifier dans le passé et pour poursuivre. Mais il y a le premier jet et ensuite
repasser encore. Et à quel moment est-ce que vous vous dites que le texte il a trouvé sa forme définitive, qu'il ne faut plus y toucher?
Bah, c'est pas moi qui me le dis, c'est mon éditrice, parce que moi je me le dirai jamais.
C'est l'heure, il faut que ça arrive, ou elle vous dit non.
Il faut arrêter maintenant, madame.
Non, en vrai.
Vrai. Moi, je pourrais le modifier encore et encore, jusqu'à ce qu'il soit, à mes yeux, parfait, ce qui ne sera jamais le cas. Et je crois que c'est le cas de beaucoup d'écrivains. Quand on en discute, on se dit, c'est difficile de le lâcher.
Faut vous l'arracher.
Pour plein de raisons, ouais. Faut me l'arracher à un moment, faut me dire, c'est bon, il est très bien comme ça, il est prêt.
Il est prêt, et bah d'ailleurs il est sorti. Plus grand que le ciel, c'est le nouveau roman de Virginie Grimaldi, paru chez Flammarion. Merci beaucoup d'avoir été notre invité.
Merci à vous.
France Culture. Affaires culturelles. Arnaud Laporte.
Après Shabaka Hutchings, il y a quelques semaines, c'est Kamasi Washington, un autre grand modernisateur du jazz qui marque l'année d'un nouvel album. D'un double album même, car comme à son habitude, le saxophoniste Dinglewood ne fait pas dans la demi-mesure. Révélé en 2015 avec The Epic, triple album à l'ambition colossale, Kamasi Washington porte depuis lors l'héritage des avant-gardistes Sun Ra, Pharaoh Sanders ou John Coltrane. Alors que son précédent album, Heaven and Earth, météore afro-futuriste, confirmait sa personnalité gargantuesque, Fearless Movement, titre de ce nouvel opus, se rapproche de la finitude terrestre avec l'expression primaire de la danse en point de mire. En 86 minutes de groove et avec des invités en pagaille, Kamasi Washington s'emploie à faire de la fusion, du funk, du jazz, du hip-hop, de la soul, le terreau fertile d'un royaume où règne l'abondance, un royaume dont il serait le maître. Écoutez plutôt le morceau Get Lit en featuring avec George Clinton et le rappeur D-Smoke, c'est notre son du jour.
Yo, yo, yo. Let's get lit. There's some getting to be got with. Let's get lit. Let the getting get got with. When the getting get good, get about to get got, get better, get gone, get lit.
So I pick the boys, yeah. We can move through this room, I know what to do, how they got the room. My mama skipped the boys, so I'm feeling lucky each day. I'm up, up and ugly, grinding till it's the time to unwind and get blind, drunk off that liquor. Tequila goggles just made it thicker. Look, you looking like my next best ex. Maybe that's a stretch. Now two hands high if you like pecan pie, and two hands low if you like to dance slow. Now grip them hips and don't you look them slip. Can't you come and dip? Are you coordinated? Cause I'm sort of faded and these hoes been recording lately. Ain't trying to end up in room shady. She look
like my
if you serve me a couple drinks, can't promise I'm gonna behave. Maybe that's a good thing.
Looking don't fade away. Just find a way to stay.
I plant my seed where that little soil fertile. Shot glass of that holy water, they puffing on herbal. She moving like Jesus' daughter, dressed up in the purple. Gown was lost and now I'm found, still winning like Churchill. She had a curse in her purse, I'm stuck in the verse with her. Body recital is vital, I go rehearse with her. Make that incision, I play nurse with her. Deep dive in the waters, maybe quench my thirst with her. And then get started on our first litter. Wait, here I come.
Don't fade away. Find a way to stay here with us.
C'était Get Lit de Kamasi Washington avec George Clinton et Dee Smoke. Kamasi Washington qui sera en concert à la salle Pleyel à Paris le 13 octobre.
France Culture, le grand tour, le grand tour. Marie Sorbier.
Bonsoir chère Marie, où êtes-vous donc ce soir ?
Bonsoir Arnaud, je me trouve ce soir au château de Villers-Cotterêts dans l'Aisne, à la Cité internationale de la langue française qui a ouvert ses portes en novembre dernier. Alors c'est ici que les éditions Gallimard viennent présenter leur nouvelle Pléiade, la 671e, eh oui, consacrée justement à la Pléiade, ce groupe de poètes du XVIe siècle mené notamment par Ronsard et Dubélé. Alors avant de suivre la présentation de ce nouvel objet littéraire, allons tout de suite rencontrer le directeur de la Cité de la langue française.
Alors je suis Paul Rondin, je suis le directeur de la Cité internationale de la langue française qui se trouve dans le château de Villers-Cotterêts, ancien château de François Ier, voulu par François Ier, où ce dernier a d'ailleurs signé la fameuse ordonnance qui fait du français la langue du royaume à l'époque et aujourd'hui la langue de notre nation.
Justement, cette ordonnance de Villers-Cotterêts qui a été signée en 1539, est-ce que vous pourriez nous rappeler qu'est-ce qu'elle va changer, cette ordonnance ?
Alors c'est très important en réalité, parce que François Ier, comme souvent, pas sur tous les sujets, mais sur beaucoup, est un précurseur. Et à ce titre, il invente finalement la langue d'égalité en disant il n'est plus possible qu'un mauvais latin soit seulement maîtrisé par les gouvernants et les clercs et qui décident de tout pour les habitants du royaume. Donc je veux une langue qui soit une langue d'égalité pour l'administration et la justice.
Quelle est la vocation de cette Cité de la langue française ? Est-ce qu'on peut dire, par exemple, qu'il s'agit d'un musée ?
C'est pas du tout un musée. C'est pas du tout un conservatoire de la langue, c'est au contraire un endroit où on montre que le français va bien, qu'il va bien parce qu'il est pluriel et que la francophonie va très très bien aussi, et qu'une langue est extrêmement vivante parce qu'elle change, parce qu'elle est augmentée en permanence, parce qu'elle est, tordue, elle est plastique, on joue avec, et c'est vraiment ça, c'est un endroit, si vous voulez, plus que d'histoire presque, c'est vraiment un endroit de monstration de ce qu'est la langue presque changeante tous les jours ou toutes les heures.
Et concrètement, qu'est-ce qu'on y voit dans cette Cité de la langue française ?
Alors ce qui est assez dingue, c'est qu'on peut visiter l'immatériel, puisqu'on peut visiter une langue. Il y a le cœur du projet qui est l'attraction principale, comme disent nos copains canadiens, c'est le parcours permanent sur la langue française, et en fait qui est un parcours qui montre d'une part les créateurs qui ont transformé la langue. Alors les créateurs c'est tous, hein, c'est évidemment les grands écrivains comme Beckett ou Cao Tiang, mais c'est aussi les rappeurs, les rappeuses, les humoristes, les linguistes évidemment, qui travaillent sur la norme et l'usage, et c'est la démonstration que, une fois encore, la langue est particulièrement vivante parce qu'elle se compose, se décompose, se recompose en permanence, et ceci à une échelle monde.
Alors, allons à présent vers l'auditorium de la Cité de la langue où Antoine Gallimard est en train de présenter ce fameux nouveau volume de la Pléiade accompagné de Mireille Huchon.
Et je dois dire que bon, la Pléiade, pour moi, la collection, non pas de références culturelles, mais de références tout court. Ce n'est pas intimidant, la Pléiade, c'est simplement tellement impressionnant de ce que la Pléiade peut avoir comme note, comme appareil critique, comme recherche à tout niveau, qu'on a l'impression qu'on ne peut pas jamais quitter la Pléiade. Alors, vous avez fait pardon de le dire, mais un travail que je trouve remarquable pour cette édition, justement en ayant l'art de mélanger des textes d'auteurs vivants, des textes posthumes aussi, et puis la poésie, du récit. Et c'est comme une tapisserie, du Moyen-Âge, on peut tout regarder sans avoir le sentiment d'être écrasé justement par la culture. C'est ce que j'aime en Pléiade. C'est pour ça que je pense qu'on est vraiment privilégié d'être là, en petit comité, dans ce lieu extraordinaire, à l'occasion de la publication, je le rappelle, du 671e volume de cette collection donc, que nous avons décidé de consacrer avec Hugues au poète de la Pléiade. Ce qui me semble clair, c'est que cette Pléiade de la Pléiade a vraiment sa place et on se demande pourquoi elle n'est pas arrivée plus tôt.
Mireille Huchon, je suis professeure émérite à la Sorbonne et auteure de l'ouvrage dans la Pléiade, Rabelais, Louise Labbé et maintenant la Pléiade.
Pourquoi, selon vous, cette anthologie consacrée au groupe de la Pléiade est une publication importante ?
Ça me paraît important que cette Pléiade sorte d'abord en Pléiade, vous imaginez, c'est la première fois qu'on a la Pléiade en Pléiade et qu'on peut lire aussi certains des textes de ces auteurs dont les plus connus bien sûr sont Dubellet et Ronsard, mais il y a parmi les autres auteurs, des auteurs tels que Guillaume Desautels, Rémi Bellot, La Péruse, qui sont ici bien présents. Et ce qu'il y a, c'est une sorte de chronique de l'émergence de la Pléiade, c'est-à-dire de leurs premiers textes. On a les premiers vers de Ronsard, les premiers vers de Dubellet, les premiers vers de Baïf, donc une sorte de cette jeunesse un peu de ces poètes, sous le règne d'Henri II, c'est-à-dire de 1547 à 1559. J'ai tenu à ce que les préfaces, des textes qu'ils s'envoient les uns les autres permettent de reconstituer une sorte d'histoire et plutôt de chronique même de ces années. Je crois que c'est véritablement un moment clé de l'histoire poétique, enfin que ces poètes.
Eh bien, je suis Hugues Pradier, je suis le directeur éditorial de la Pléiade depuis d'assez nombreuses années maintenant.
Et pourquoi Gallimard publie aujourd'hui ce volume consacré aux poètes de la Pléiade ?
Alors au-delà du jeu de mots, parce qu'évidemment la collection de la Pléiade, son nom ne vient pas des poètes de la Pléiade, mais de la Pléiade russe qui se réunissait autour de Pouchkine. Le fondateur de la Pléiade est d'origine russe, il faut le rappeler. Au-delà de ça, c'était pour nous très intéressant de faire ce volume original, parce que nous n'avons pas beaucoup de volumes collectifs, qui est à la fois une anthologie de poésie, mais aussi la chronique d'une époque, la chronique du règne d'Henri II, sous l'angle culturel, littéraire, poétique et aussi politique.
Pourquoi avez-vous souhaité présenter cette Pléiade ici, à la Cité de la Langue ?
Alors, écoutez, parce qu'au fond, ce que l'ordonnance de Villers-Cotterêts a réalisé pour la langue française juridique et administrative, les poètes de la Pléiade l'ont réalisé pour la langue française littéraire. C'est vraiment la même démarche, c'est-à-dire enrichir la langue, l'imposer comme la langue de toute une nation, de tout un pays, et faire en sorte que elle ne soit pas pauvre comme, à leur avis, elle pouvait l'être dans les siècles précédents, mais enrichie de tous les apports. Et on redécouvre à ce moment-là la littérature grecque, Lycophron, Sappho. Donc il y a véritablement une volonté d'enrichissement de la langue. Et au fond, c'est l'image que donne Villers-Cotterêts également. Donc voilà.
Bonjour, moi je suis libraire à la FNAC des Ternes, je m'occupe du rayon littérature et particulièrement de la collection de la Pléiade. Je suis Christine Horton, voilà, et ça fait 30 ans que je suis libraire.
Vous nous avez montré tout à l'heure un vinyle de votre collection qui a été enregistré, je crois, en 1961 par Gallimard. Est-ce que vous pourriez le présenter en quelques mots à nos auditeurs ?
Bien volontiers. Donc, c'est le volume offert en 1961 à l'occasion de la quinzaine de la Pléiade qui s'appelle « Les poètes du XVIe siècle, anthologie sonore de la Pléiade » avec des lectures, entre autres, de Maria Cazares.
Et comment ce vinyle, qui est très rare, est tombé entre vos mains ?
Eh bien, en fait, j'étais en classe de seconde. Mon père n'était plus à la maison, mais par contre, il y avait toutes ses affaires et tout. J'ai étudié avec une super prof qui nous avait enseigné Clément Marot. Et je suis allée vers ce disque et je l'ai soustrait et je me le suis approprié. Voilà.
Amour, tu as été mon maître. Je t'ai servi sur tous les dieux. Ah, si je pouvais deux fois naître, comme je te servirais mieux.
Suite du grand tour demain, Marie Sorbier, où serez-vous ?
Demain, Arnaud, je serai sur l'île de Porquerolles dans le sud de la France pour visiter la Villa Carmignac. Et merci à Marceau Vassy pour la prise de son.
Et merci à vous, Marie Sorbier. Cette émission, comme toutes celles de la chaîne, est à écouter ou podcaster sur le site de France Culture ou via l'application Radio France. Émission préparée avec Boris Pinault, Anouk Minaudier, Jules Barbier, Marceau Vassy, Lise Ripoche et Emma Rouberti.